Bienvenue, vivre ensemble.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me and You, c'est le podcast du vivre ensemble. On y parle des liens que tissent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, les professionnels de l'enfance et bien plus encore. Comment accompagner les enfants de manière respectueuse et joyeuse? Comment mieux comprendre leur développement et transformer les difficultés qu'on peut rencontrer en opportunités d'apprentissage? Ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de 5 enfants.
Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puéricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de 2 filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 3e saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de la pratique de l'attention, de pleine conscience, de mindfulness avec les enfants. Lorsqu'on est parent, on aspire à ce que nos enfants soient capables de réguler leurs émotions et des ressources de retour au calme, et surtout qu'ils se sentent bien dans leur basket. Et si justement la pratique de l'attention pouvait contribuer à tout ça? Comment transmettre cette compétence à nos enfants? Comment expérimenter nous-mêmes les bienfaits de la méditation de pleine conscience? Pour nous guider dans cette réflexion, c'est Valérie Marchand qui va nous accompagner tout au long de cet épisode. Valérie est docteur en pharmacie, elle est également formatrice, conférencière, artiste peintre et autrice. Elle a écrit, entre autres, « Happy méditation »,« Je fais la paix avec mon stress », Je fais la paix avec mon corps, j'arrête de me prendre la tête et plaidoyer pour un système plus humain. Bonjour Valérie.
Bonjour, bonjour Mélodie, bonjour Nadège, je suis ravie de vous retrouver ce matin.
Alors, on est super heureuse de pouvoir te poser nos questions aujourd'hui et on va commencer par celle-ci. Est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous expliquer bien ton parcours?
Avec plaisir. Alors, donc, effectivement, j'ai démarré ma vie professionnelle en étant pharmacien spécialisé dans l'accompagnement des fins de vie et des addictions, et de l'éducation thérapeutique également. Et mon intérêt pour les pratiques attentionnelles ou méditatives, ou pratiques même complémentaires, c'est éveillé par mes études de pharmacie. Alors, mon expérience personnelle aussi, hein, familiale, personnelle, puisque j'ai rencontré moi-même des difficultés de santé, j'ai mon entourage aussi qui a rencontré des difficultés de santé, mais il y a eu cette ouverture, cet intérêt, cette curiosité qui s'est déclenchée quand au début de mes études, on m'a parlé d'effet placebo et d'effet nocebo. C'est-à-dire que dans les études sur les médicaments, on a un groupe qui ne reçoit pas de médicaments et on observe que dans ce groupe, des gens guérissent sans médicaments et des gens développent les effets indésirables du médicament sans le prendre. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un lien corps-esprit, il y a un impact de nos pensées, de nos croyances sur notre santé. Donc, nous avons une pharmacie intérieure, pas seulement une pharmacie extérieure. Donc, en tant que future pharmacienne, c'était pour moi essentiel d'explorer cette voie et de savoir comment accompagner mes patients à aller puiser dans leurs ressources intérieures en complément de cette pharmacie extérieure que j'allais pouvoir leur proposer. Et là, c'est ouvert un monde passionnant et j'ai été intéressée par tout ce qui est thérapie, pratique complémentaire. Je me suis intéressée aux neurosciences, évidemment, neurosciences affectives et sociales qui naissaient un peu dans cette période où je me retrouvais jeune pharmacienne aussi, puisque je suis devenue pharmacienne diplômée, je crois, vers 2002-2003, par là. 2003, et c'était un peu la période de la naissance de ces neurosciences particulières. Et puis, entre-temps, effectivement, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai fait cette expérience d'accompagnement de fin de vie qui m'a entraînée vers un burn-out. Alors, l'expérience d'accompagnement de fin de vie, mais surtout l'expérience à l'hôpital. Et puis, j'ai pris conscience que j'avais des carences en compétences psychosociales, c'est-à-dire qu'on ne m'avait pas appris à apprivoiser mon empathie, à apprivoiser mon ancrage, mes émotions. Et donc, la rencontre de cette pratique attentionnelle qu'est la méditation de pleine conscience, mais après, de façon plus large, hein, c'est-à-dire l'attention à soi, l'attention à l'autre, l'équilibre entre l'attention à soi, l'attention à l'autre, ça a été vraiment une grande découverte. Et puis, je l'ai même redécouverte lorsque je suis devenue maman. Et là, maman d'un petit garçon hypersensible, précoce, comment l'accompagner? Et puis, très vite, je me suis rendu compte que cette pratique attentionnelle m'aidait beaucoup moi et l'aidait beaucoup lui. Et puis, j'ai eu envie de partager ce que j'avais découvert. Voilà comment j'en suis arrivée là. Alors maintenant, j'accompagne effectivement les enfants, les parents, les enseignants, les éducateurs, les psychologues, les professionnels de santé et les particuliers, en fait, aussi à la parentalité. Voilà. Finalement, cette attention, elle est au cœur de tout. Elle est au cœur du prendre soin de soi et du prendre soin des autres. Et elle nous permet de trouver un équilibre, alors en tant que professionnel de santé, mais aussi en tant que parent, en tant qu'être humain, finalement.
Merci Valérie, c'est trop beau de t'écouter te présenter ainsi. Alors après, c'est vrai que dans ton parcours, il y a pas mal de choses qui font un petit peu écho au mien, puisque je suis aussi soignante, et même quand tu parles d'effet placebo, etc., j'ai tellement pu l'observer que ça me parle beaucoup. Alors, là, tu parlais effectivement de... Tu as évoqué la méditation, tu as évoqué l'attention. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste justement cette pratique de l'attention? Et est-ce qu'il y a des différences avec la méditation? Parce que ce sont des termes dont on entend de plus en plus parler et qui se développent beaucoup, à la fois dans le milieu familiale, mais aussi dans les écoles. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux sujets?
Oui, très bonne question, très intéressant. Et effectivement, il y a énormément de précautions à prendre aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de craintes de la part de l'amivilude, il y a peut-être des malcompréhensions et un manque de connaissances et forcément, du coup, des inquiétudes. Donc, je vais être très rassurante. La méditation de pleine conscience que je pratique est une méditation très encadrée scientifiquement, qui a un socle scientifique très solide, avec beaucoup d'études depuis la fin des années 70 qui montrent cet impact. Et bien sûr, ça nécessite d'être professionnel, d'avoir un ancrage dans la transmission de cette pratique. Donc ça, c'est très important. Tout le monde ne peut pas partager la pratique comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment besoin d'une formation, d'un ancrage sérieux, surtout quand on accompagne les patients ou les enfants, bien évidemment. Et la pratique de l'attention, eh bien, finalement... je dirais que c'est à la fois la même chose et ça peut être vécu de façon différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'être un grand méditant pour pratiquer l'attention. C'est quelque chose qu'on peut partager, explorer de façon très ludique, très simple et très courte avec les enfants. Et ça nécessite d'avoir des connaissances sur l'attention et ça nécessite évidemment d'avoir une posture particulière pour la partager. Alors quand on médite et qu'on est méditant, cette posture, on la développe très rapidement puisque on l'incarne. mais on peut tout à fait apprendre, par exemple, en tant que parent, en tant qu'enseignant, des petites pratiques très simples pour le quotidien qui vont nous aider. Et là, on peut être vraiment sur des choses courtes, des choses simples, très basées sur les approches neuroscientifiques. J'ai perdu le fil. Mais en fait, tout est lié puisque la pratique méditative, c'est une pratique attentionnelle, en fait.
Mmh. Justement, tu
parles. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis.
Oui, si, c'est très clair. Et tu parles de petites choses qu'on peut mettre en pratique dans son quotidien, justement, pour la pratique de l'attention. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, comment ça se concrétise dans ton quotidien, cette pratique de l'attention? Et puis, quels sont les bienfaits que tu peux en retirer? Tu nous as expliqué tout à l'heure que tu partageais ça aussi avec ton fils. Peut-être que ça peut être intéressant de voir à son échelle aussi quels sont les bienfaits qu'il peut en retirer.
Oui, alors juste une précision. Oui, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière le mot méditation. Et le mot méditation, hein, il faut savoir que dans ses racines, hein, il y a cette notion d'entraînement à l'esprit et au corps. Donc on voit vraiment le lien, hein, avec la pratique attentionnelle, et puis dans méditation il y a aussi cette racine med comme la médecine, hein, dans cette intention de prendre soin. Donc on voit bien qu'il n'y a rien de péjoratif dans cette racine du mot méditation. Au contraire, il y a quelque chose de très riche et de très intéressant. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, avec mon fils, eh bien, je vais vous dire, aujourd'hui mon fils est ado, donc je ne pratique plus avec mon fils. Mais j'ai pratiqué jusqu'à ses... Alors il va avoir 15 ans, j'ai pratiqué avec lui jusqu'à... J'ai encore pratiqué avec lui ponctuellement l'année dernière. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus OK pour lui. Et c'est OK pour moi que ce soit plus OK pour lui. Mais je pense qu'il a acquis certaines bases qui sont devenues naturelles maintenant. Et que peut-être cette pratique pour l'instant c'est plus forcément OK, mais finalement je me dis qu'il y a des petites graines qui ont été plantées, il y a des choses qui ont, des petites plantes qui sont déjà bien en cours de germination, il y a peut-être même un arbre qui est bien solide, bien enracinée, donc je suis confiante et je sais que peut-être il y a des choses qui vont revenir plus tard, voilà, ou pas, on verra, voilà, ça lui appartient maintenant. Mais alors avec mon fils, on a démarré la pratique, il avait 4 ans, cette pratique, je pense, cette attention, je pense qu'on la transmet nous-mêmes en tant qu'adultes quand on a cette conscience et qu'on pratique nous-mêmes. Voilà, je pense qu'on incarne, on transmet, les enfants ont des neurones miroirs, nous-mêmes on a des neurones miroirs, donc on apprend aussi de nos enfants. Donc on transmet avant un certain âge parce que l'attention est un réflexe, l'enfant est petit, donc ses temps d'attention sont très courts, donc il y a des choses qu'on transmet parce qu'on incarne. Et puis ensuite dans la pratique, je trouve que quand on pratique avec un petit bout de chou, finalement dans ce temps de présence de qualité et dans ce temps de partage de ressentis qu'on fait après la pratique, eh bien on apprend à l'enfant à prendre conscience de ce qu'il sent, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. On lui transmet cette capacité à mettre des mots sur ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Donc là, ça active aussi d'autres zones du cerveau, dont le cortex singulaire antérieur, qui est essentiel dans la régulation des émotions et du stress, et dans la capacité à prendre conscience des messages du corps. Donc ça, c'est précieux, hein, en termes de prévention, de santé et de relations. Et donc, moi, j'ai vu vraiment mon fils grandir avec cette capacité à sentir ce qui se passe dans son corps, à écouter les messages de son corps, à sentir ses émotions, à comprendre ses émotions et à partager sur ses besoins, à exprimer ses besoins et ses limites.
Et pour que ce soit vraiment concret, qu'on arrive à visualiser ce que c'est une pratique de l'attention, est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu peux être amené toi à faire dans ton quotidien pour justement pratiquer ça? Est-ce que tu t'assois, tu fermes les yeux, et ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est quoi là vraiment dans ton quotidien la pratique de l'attention?
Alors, il y a à la fois ce temps de méditation que je m'offre ou que je partage avec d'autres personnes, qui est effectivement dans mon quotidien. Et il y a une pratique informelle. Donc, il y a à la fois cette pratique formelle, où je me pose, où j'ai un temps de méditation, où je m'assois, je ferme les yeux et je ne fais rien. Et je suis juste attentive, présente à ce qui se passe en moi et autour de moi. Il y a cet équilibre entre l'attention à moi et l'attention à au monde qui m'entoure. Et puis, il y a cette pratique informelle où je vais ramener mon attention dans ce que je suis en train de faire. Donc, je peux m'appuyer sur les activités du quotidien, les temps du quotidien avec mon fils, avec d'autres personnes, avec mon chien, avec ce que je suis en train de faire. Ça peut être cuisiner, prendre ma douche, boire un café, manger, peu importe. Mais il y a des moments comme ça où je vais ramener mon attention dans ce que je suis en train de vivre de façon informelle. Et donc, une pratique que j'aime beaucoup et qui fait partie de mon quotidien, c'est vraiment cette pause où je m'ancre dans les sens, dans les cinq sens en fait, où je vais juste me poser et porter mon attention vers une chose que j'entends, puis porter mon attention vers une chose que je vois, ou même si j'ai les paupières fermées, hein, quelque chose que je perçois visuellement. Je vais porter attention vers l'odorat. Est-ce qu'il y a une odeur que je perçois? Est-ce que j'ai un goût dans ma bouche? Et est-ce qu'avec mon sens du toucher, je peux percevoir une chose? Et à chaque fois, je vais garder mon attention quelques instants sur ces cinq sens. Je peux avoir des pratiques très simples, des pratiques d'ancrage, où je vais juste porter attention à mon contact avec le sol, avec le support, la chaise, sentir que je suis posée. Cet ancrage, il est très puissant et il est très simple, hein, en même temps, puisque pour moi, l'ancrage, c'est vraiment sentir que je suis portée par le sol et que je peux me déposer sur ce sol et que je sens ça à travers mes points d'ancrage. Et puis, sentir mon corps au-dessus qui se dresse, qui respire, voilà. Simplement sentir quelques respirations. Donc ça, je fais ça tous les matins quand je m'installe à mon ordinateur, à mon bureau. Donc je viens sentir que je suis posée et que je respire. Voilà, c'est tout. Tout simplement, quelques respirations sans la changer, juste sentir. Voilà, la vie. La vie qui circule. Donc c'est des petites choses simples, courtes. Et avec mon fils, vraiment cette pratique des cinq sens, je la pratique beaucoup, même des fois on est en voiture, on rentre de l'école, et puis je l'invite à me partager, tiens, on est au feu rouge, on a un temps de pause, tiens, est-ce que tu pourrais me partager la petite pause cinq sens? Donc il va avoir un petit temps de pause, et puis après il va me partager, bah voilà, j'ai entendu un klaxon, je voyais le tableau de bord, je sentais l'odeur de la lavande dans la voiture, j'avais le goût dans ma bouche du chewing-gum que j'ai, voilà, de la menthe, et puis le sens du toucher, ben je sens le siège sous mes jambes, sous mes fesses, voilà. Et donc ce temps, il est précieux, il paraît anodin, puisque c'est quelque chose d'ordinaire et de quotidien, mais en même temps c'est précieux, et ce temps de partage, ben, il active l'attention au corps, l'attention au monde environnant et le partage de choses simples. Voilà, je mets des mots sur ce que je sens, ressens, perçois, j'apprends à le partager de façon non interprétative, c'est-à-dire de façon très expérientielle, sans interpréter. Donc ça, c'est les bases de la communication non-violente, hein. Et ça active cette zone du cerveau qui est précieuse pour la régulation du stress et des émotions. Bon, moi, je trouve que c'est une expérience formidable.
Ouais, et là, tu vois, où je te rejoins quand je t'entends parler tout à l'heure avec les exemples que tu citais. Moi, je sais que c'est quand j'étends le linge dehors, où je sais que je suis pleinement dedans. J'adore, je choisis la pince, je la sens, je choisis... enfin. Ce temps-là, où j'étends mon linge qui est mouillé, je sais que pour moi, c'est un temps qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Des fois, je me dis, mais tu vas pas bien. Mais je sais pas, j'aime ça. Pareil, moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup beaucoup pieds nus, dedans, dehors, et donc de passer sur les différentes textures entre le parquet qui est à l'intérieur de la maison, quand je sors de la maison, que je sens le paillasson qui pique, puis j'arrive sur la terrasse qui est pas totalement terminée, qui est encore bétonnée, et puis j'arrive dans l'herbe, et puis après on est en travaux, donc des fois il y a des petites choses à esquiver quand t'es pieds nus et tout. Et c'est pareil, j'aime sentir la différence de ces sensations, et à chaque fois je sais que je porte mon attention là-dessus, ou quand je me balade avec les filles dehors et que j'entends un oiseau, j'aime bien leur dire oh, « tu as entendu, on a entendu tel oiseau », etc. Et du coup, voir que là, elles tendent l'oreille et que d'un coup, elles portent leur attention sur un bruit bien spécifique, mais auquel on n'aurait pas forcément fait attention en marchant et en avançant vers un but bien précis, alors qu'il y a plusieurs bruits autour de nous, ou pareil, sur une odeur, et dire « oh là là, j'ai senti... » Alors moi, j'adore, là, avec l'automne qui arrive, mais l'odeur des feuilles mortes ou des feuilles sèches qui sont au sol, et ça me renvoie et ça me rappelle tellement la cour de récréation quand j'étais enfant, etc. Et du coup, après aussi, de pouvoir partager des petits souvenirs comme ça qui sont en lien avec certains bruits, certaines odeurs qu'on perçoit... J'adore tous ces moments-là, et j'ai adoré t'écouter et me projeter dans ta voiture avec ton enfant en imaginant moi ce que je peux entendre, voir, sentir quand je suis dans ma voiture. C'est quelque chose qui est, qui est simple et qui fait tellement de bien.
Oui, et qui nous paraît ordinaire, acquis, normal, mais en fait c'est tellement précieux, hein, quand on est toutes les deux issues du milieu de la santé, et quand on est soignant, finalement on prend conscience à quel point ces choses ordinaires, anodines, elles sont précieuses, parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre ça à ce moment-là, et voilà, tout le monde n'a pas tous ses sens qui fonctionnent, tout le monde n'a pas une bonne santé à tout moment, donc tout ça c'est tellement précieux, et d'avoir la conscience de ça, d'avoir peut-être de la gratitude ou d'être heureux de vivre ça, c'est tellement important. Il faut pas oublier qu'on a deux choses qui peuvent être source de stress et de souffrance supplémentaires dans notre vie. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps dans nos pensées. On passe plus de la moitié en moyenne, il y a des études qui ont mesuré ça, plus de la moitié de notre temps d'éveil dans nos pensées, dans le monde virtuel de nos pensées, à ruminer des choses du passé, à anticiper des scénarios du futur qui beaucoup n'arriveront jamais. Pourquoi ? Mais parce que on a des mécanismes, on a des automatismes qui sont parfois source de souffrance, et je trouve que cette pratique attentionnelle, elle nous permet de prendre conscience de ça et de nous en désengager. Voilà, prendre conscience qu'on est parti dans nos ruminations, sachant qu'en plus, et ramener l'attention sur le moment présent, sachant qu'en plus, quand on est dans ce mécanisme-là, on ne profite pas de l'instant présent. Et en plus, 80% de nos pensées ont tendance à être négatives. C'est le biais cognitif de négativité. Et il nous pousse à focaliser sur ce qui ne va pas ou si ce qui pourrait mal se passer. Et il faut savoir que notre cerveau, étant un grand simulateur, lui, il pense que ça se produit vraiment. Donc si on pense à des choses stressantes, inquiétantes, ou qui nous font peur, ou qui nous embêtent, des conflits, des anticipations, et ben lui, il sécrète du cortisol comme si on y était. Cortisol, adrénaline, noradrénaline, tout ça, ça va impacter notre santé, tout ça, ça va impacter nos émotions, nos pensées, c'est un vrai cercle vicieux. Et donc la pratique attentionnelle, elle nous permet de repérer tout ça. Et dès qu'on repère, dès qu'on prend conscience, on est plus libre. Est-ce que je continue à ruminer, ou est-ce que finalement je reviens à ce que je suis en train de vivre ici et maintenant? Et les enfants, je trouve, pour nous aider à revenir dans cette qualité d'attention dans le moment présent, sont des maîtres. Moi, mes maîtres, ça n'a pas été... Bon, si, quand même, il y a eu un livre, Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, qui a été une révélation pour moi. Mais sinon, mes maîtres ont été les enfants. Mes ateliers avec les enfants, ça a été... j'ai retrouvé ma qualité de présence au moment et ma qualité de curiosité et d'exploration grâce aux enfants, grâce à mon fils hein, en premier, et puis grâce aux enfants après dans les ateliers. Et ça, c'est vraiment précieux. Et ça m'a fait penser, quand tu parlais tout à l'heure, Nadège, de tes expériences, voilà, des moments que tu partages dans le quotidien et dont tu es attentive, moi, ça m'a fait penser à cette citation de Simone Veil, la philosophe, hein, pas la femme politique, Simone Veil qui a dit ceci: l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Et moi, j'ai envie de rajouter pour soi-même et pour les autres. Et c'est vraiment ce que j'ai appris quand j'ai accompagné les personnes en fin de vie. C'est qu'il y a des moments dans la vie, quand on est face à quelqu'un qui est en souffrance, ben, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire pour soulager cette personne. Mais quelque chose est encore possible, c'est d'être là. Mais d'être vraiment là. Pas en train de faire sa liste de courses, pas en train de penser à autre chose, d'être vraiment là, de tout son être, avec toute son attention. Et c'est vraiment pour moi, vraiment, ça rejoint cette citation de Simone Veil. L'attention, pour moi, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment la plus belle chose. Le temps et l'attention, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à quelqu'un. Et souvent, ce qu'on oublie quand on est soignant ou quand on est parent, parce qu'on nous entraîne à ça, à être tourné vers l'autre, ben, ce qu'on oublie, c'est que si on ne s'offre pas cette même qualité d'attention et de présence, on ne sent pas nos besoins, on ne sent pas nos limites, et puis à un moment donné, on s'épuise et on s'effondre. Donc, quand on va apprendre à partager ces moments qualitatifs avec nos enfants, on va se réentraîner à être attentif à soi-même en tant que parent ou en tant qu'enseignant. Hein. Et ça, c'est précieux parce que quand on est tout jeune parent et que le petit bébé arrive, notre système émotionnel... Alors, le système émotionnel des mammifères est calibré comme ça. Hein, et notre système émotionnel est fait pour que notre attention soit attirée vers le petit être vulnérable, puisqu'on va devoir prendre soin de ses besoins vitaux. Donc, on va s'entraîner pendant des mois à avoir l'attention tournée vers l'autre, vers le bébé. Et puis, tout d'un coup, le petit bébé va grandir, va prendre son autonomie petit à petit. Mais nous, on a tellement appris à ne plus être attentif à soi en tant que parent, qu'il va falloir réapprendre. Et c'est là que la pratique attentionnelle avec nos enfants, ben, ça va être une super opportunité de ressentir le corps, de revenir à soi, de partager à son enfant ce qu'on ressent, de lui montrer l'exemple d'un adulte qui porte attention à lui, qui prend soin de lui. C'est le meilleur moyen de lui apprendre à devenir lui-même un adulte qui va être attentif à lui et prendre soin de lui. Donc, il n'y a pas à culpabiliser, à se dire « Oh là là, c'est pas bien, je pense à moi, je fais attention à moi, je suis une mauvaise mère. » Et c'est souvent ce qu'on se dit, hein, « J'ai pas le temps, être une bonne maman, c'est déjà bien m'occuper de mon enfant. » Ben non, être une bonne maman, c'est aussi être attentive à soi, ou un bon papa, hein, prendre du temps pour soi et montrer à son enfant qu'on le fait.
Et là, quand je t'écoutais parler, ça me faisait penser, je sais pas, moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, je le savais pas, mais les flamants roses, apparemment, perdent leur couleur rose quand ils ont des petits, parce que justement toute leur attention est tournée vers eux, ils les nourrissent, etc. Et donc c'est un peu comme si, hop, ils perdaient en énergie, donc ils sont plus roses, ou ils sont moins roses, mais après, ça revient. Et je trouvais ça intéressant par rapport à ce que tu disais. J'avais vraiment cette image du flamant rose en tête, où quand on a un tout petit avec, comme tu disais, des besoins vitaux intenses, on est tourné vers ce bébé, le prendre soin, où des fois on a un peu tendance à s'oublier. Mais au final, c'est important après de ressortir un peu la tête de l'eau, repenser à nos besoins à nous aussi, pour pas tomber dans le burn-out parental ou la dépression ou d'autres choses. Et retrouver un petit peu de nos couleurs et de cet aspect rose, ça me faisait penser à ça.
Ah, c'est magnifique, merci Nadège pour...
Mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps.
Mais je trouve que la nature est formidable, hein. Quand on l'observe, elle nous enseigne tellement de choses justes. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, je trouve que ça rejoint aussi l'exemple des masques à oxygène. Alors, ça, c'est pas du tout la nature, hein, mais les masques à oxygène dans les avions, quand il y a des dépressurisations, hein, c'est exactement la même chose. Ça nous montre à quel point prendre soin de ses besoins, c'est naturel et pas égoïste. Puisque on nous dit en priorité s'équiper soi-même avant d'aider les autres. Et c'est exactement ça. Prendre soin de son besoin d'oxygène nous permet d'être plus disponibles pour aider les autres à prendre soin de leurs besoins en oxygène, mais ça s'applique à tous les besoins. Alors bien évidemment, il y a un équilibre à trouver parce qu'il y a des moments où prendre soin du besoin de l'autre, s'il y a une urgence, si c'est vital, si c'est important, eh ben, notre besoin personnel, peut-être on peut la prise soin du besoin personnel, on peut peut-être le décaler dans le temps, mais il ne faut pas oublier d'en prendre soin à un moment donné. Le décaler, ce n'est pas le nier et l'oublier.
Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, peut-être nous détailler un petit peu en quoi cette pratique-là de l'attention, elle pourrait contribuer au bien-être des enfants, peut-être sur différents plans, je sais pas, que ce soit les émotions, le sommeil, etc., peut-être les apprentissages, en quoi voilà, ça peut être bénéfique au bien-être des enfants.
Oh là là, c'est vaste. Alors oui, les émotions, les apprentissages, le stress, le sommeil, la santé, les relations à l'environnement, aux autres, c'est tellement vaste. En fait, pour moi, vraiment, l'attention, c'est au cœur de tout. C'est au cœur de la qualité de vie. Alors, premièrement, pour soi, pour les émotions, le stress, mais aussi la santé, parce que l'attention est nécessaire pour développer ne serait-ce que ce qu'on appelle en neurosciences, c'est même pas des neurosciences, c'est de la neurologie, l'interoception. Il y a la proprioception, hein, vraiment cette perception de l'environnement et de l'équilibre. Voilà. Mais l'interoception, c'est la perception des signaux corporels. Alors ça peut être la faim, ça peut être le rythme cardiaque, la respiration, mais ça peut être une douleur, ça peut être une démangeaison, ça peut être une petite sensation pas habituelle. En fait, c'est vraiment un outil de prévention de santé. Parce que l'enfant grandissant va être capable de détecter des modifications, des signaux. Tiens, là, je ressens ça. Tiens, là, j'ai cette douleur. Tiens, voilà. Donc ça, c'est vraiment très important en termes de santé. Parce que ça va permettre... Alors, ce n'est pas infaillible, hein, on est humain, hein, ce n'est pas un scanner. Voilà, mais on va pouvoir peut-être détecter de façon plus précoce des troubles de la santé. Parce qu'on a tendance à actuellement plutôt inviter à grandir en se coupant du corps, ne serait-ce que par des phrases hein, que j'entends encore beaucoup dans mon quotidien, quand on voit un petit loulou qui tombe par terre et qu'on lui dit en le relevant avec une bonne intention, hein, « pleure pas, t'as rien ben, ». Hop, on coupe l'enfant de son corps. L'enfant, il se dit « ah mince, je sens quelque chose, mais on est en train de me dire que c'est pas juste ». Donc, on apprend aux enfants à se couper de leur ressenti, qui est juste, parce que le corps, en général, se trompe peu. Hein, c'est vrai que nos sens peuvent nous tromper, mais en général, nos perceptions sont quand même assez justes et importantes. Et donc, de pouvoir grandir en étant à l'écoute de son corps de façon juste et équilibrée, avec cet équilibre hein, entre l'attention à soi, l'attention à l'environnement, eh bien, peut nous éviter d'attendre que le temps ait besoin d'hurler, que le corps ait besoin d'hurler pour se faire entendre. Et c'est ce qu'on vit souvent nous en tant qu'adultes, hein, parce qu'on a mal quelque part, mais on y va quand même, on va aller travailler en rampant. Moi, j'entends, je vois beaucoup encore d'adultes, moi-même je l'ai fait en tant que jeune maman, hein, d'aller travailler en laissant mon enfant malade, en étant malade avec 42 fièvres moi-même, parce qu'il fallait travailler et que le travail passait avant tout. Bah oui, mais à un moment donné, bah, le corps dit stop. Il va trouver une façon, à un moment, de stopper ça et de dire « mais stop là, là t'en peux plus, prends soin de toi ». Et ça va être par des choses qui nous semblent pas forcément logiques, ça peut même être par un accident. Je tombe, je me tords la cheville, mais parce que, à un moment donné, mon attention n'était pas là, j'étais tellement dans l'agitation, dans le speed, qu'à un moment donné, ben, je ne fais plus attention, je me blesse et stop, là, il faut s'arrêter. Et donc, ben, on va apprendre à nos enfants à s'arrêter, à sentir ce que le corps dit, à peut-être à y répondre tant que c'est tout petit et que c'est gérable. Et donc, ça, c'est précieux. En termes de stress et d'émotion, on va pouvoir apprendre à nos enfants que ces intelligences et ces signaux sont des voyants sur le tableau de bord à prendre en compte pour prendre soin de soi et pas des choses qu'il faut masquer, mettre sous le tapis. On va pouvoir leur permettre de découvrir que ça va nous révéler nos besoins et nos limites, que tout ça c'est précieux, ce sont des informations. Et puis, en termes d'apprentissage, mais oui, évidemment, on ne peut pas apprendre si on n'est pas attentif. On ne peut pas découvrir le monde si on n'est pas attentif. On ne peut pas comprendre les choses si on n'est pas attentif. Donc, c'est extrêmement important pour les apprentissages. Et pour les relations, quoi. On peut pas avoir des relations équilibrées, saines, si on n'est pas attentif à soi, attentif à l'autre.
Et le fait de t'écouter parler, là, ça met vraiment bien en lumière le caractère central de cette attention, puisque là, tu as déjà évoqué plein d'aspects, plus en termes de bien-être, en termes de ressenti, en termes de ce qu'on peut transmettre à nos enfants à un instant T et qui leur servira toute leur vie, puisque finalement, même adulte, on va pouvoir réinvestir ces compétences-là. Et donc, j'imagine, enfin, n'importe quel parent qui t'écoute là se dit « waouh, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des familles qui se sont jamais trop penchées sur cette question-là de la pratique de l'attention, et là, le fait de t'entendre, ça leur donne envie de développer cette compétence-là. Tu nous as expliqué tout à l'heure que ça commence déjà par soi, en tant que parent, de prendre le temps, de prendre soin de soi, de s'accorder des temps de pause où on ressent. Et tu l'as dit aussi, dans nos vies à 10 000 à l'heure, où on gère le quotidien, le travail, les enfants... On peut très vite être en apnée, enchaîner les journées sans forcément faire de pause. Et donc, comment on fait ? Est-ce que, justement, le fait de vouloir transmettre ça à nos enfants, ça peut être un bon prétexte pour dire « ben stop, je vais m'approprier ces techniques-là de pratique de l'attention, je vais les transmettre à mon tour à mes enfants ». Et puis, de manière plus générale aussi, parce que je me dis peut-être qu'il y a certaines familles qui vont se lancer dans cette démarche-là, et donc c'est super chouette pour leurs enfants, mais on aurait envie que tous les enfants bénéficient de ça, quel que soit le contexte familial, social, etc. Et donc, je me dis que l'école, ça peut être un chouette vecteur pour ça, puisqu'on touche quand même quasiment toutes les catégories sociales et tous les âges. Et donc, comment faire pour que ça rentre aussi dans les écoles ? Des fois, il y a eu des débats comme quoi c'était quelque chose qui était associé à une pratique sectaire, et donc il y a des enseignants pleins de bonne volonté qui avaient commencé à mettre des choses en pratique dans leur classe et qui ont été totalement refroidis par ces débats, alors que tu l'as rappelé, il y a des fondements scientifiques dans ces pratiques, qu'il y a une façon particulière de le faire. Je sais que toi, tu transmets ça aux enseignants, puisque j'ai pu bénéficier de certaines des compétences que tu m'as transmises au travers du parcours SEV notamment, savoir être et vivre ensemble. Du coup, ça fait beaucoup de questions, mais comment on fait pour que le plus d'enfants possible aient accès à ça et se reconnectent à cette attention ?
Alors, c'est tellement important comme question. Merci de la poser. Alors, il y a plusieurs éléments. J'ai à la fois de l'optimisme et à la fois des inquiétudes. Alors, aujourd'hui, très honnêtement, moi, j'interviens depuis des années dans le réseau Canopée pour l'ISFEC, qui est l'Institut de formation des enseignants dans l'enseignement catholique. J'interviens pour l'Éducation nationale du Luxembourg. Je suis intervenue aussi pour former dans des écoles privées ou des écoles d'enseignement, alors je ne sais pas comment, j'ai un trou de mémoire là.
Alternatif.
Alternatif, ça se dit, ouais, c'est le mot, ok. Donc je suis beaucoup intervenue pour former les enseignants, et aujourd'hui, cette année, il se passe une drôle de chose, c'est que toutes les formations qui étaient prévues, mais pas que pour moi, hein, pour mes collègues également, puisque j'ai une collègue, notamment Anne-Marie Lafont, qui vient de sortir un livre sur la méditation à l'école et qui vient de voir sa formation qui marche depuis des années avec des centaines d'inscrits annulés. Moi, mes formations ont toutes également été annulées pour les enseignants. Alors, je suis inquiète et effectivement, ce sont des formations qui sont très, très ancrées, qui s'appellent pratique de l'attention, compétences psychosociales à l'école, pour en fait tourner vers le développement des apprentissages et de l'ambiance scolaire, hein, de la qualité de vivre ensemble. Et donc, toutes ces formations aujourd'hui, on a vu aussi les programmes de méditation qui devaient être lancés, hein, il y a un an et demi, qui ont été supprimés pour la méditation dans l'enseignement également. Donc ça, c'est encore une autre chose. Donc effectivement, tout a été stoppé. Et alors ça m'inquiète beaucoup, mais je me dis c'est jamais irrémédiable. Donc voilà, je ne lâche pas l'espoir que ça revienne. Et sachant qu'en plus, il y a une vraie, vraie demande et un vrai, vrai besoin.
Et puis ça paraît même contradictoire avec des annonces gouvernementales qui ont été faites, qui parlaient de donner des cours d'empathie. Ça semblait être...
Sachant que la méditation ou la pratique de l'attention développe l'empathie, mais au-delà de l'empathie, parce que l'empathie peut épuiser, donc c'est en fait l'empathie, c'est une intelligence émotionnelle qui est encore pas mature. La maturité de l'empathie, c'est la compassion. La compassion, c'est comprendre l'émotion de l'autre, ne pas la prendre pour soi, ne pas se laisser épuiser par cette émotion et au contraire avoir une impulsion, une énergie de prendre soin et d'accompagner et d'aider l'autre à aller mieux ou à prendre soin de lui-même. Donc, ce qui est positif dans ces annonces gouvernementales, c'est que, par exemple, pour Sève, il y a des perspectives effectivement de faire entrer les ateliers pratiques de l'attention philo dans l'enseignement public. Donc ça, ce serait effectivement une très bonne nouvelle. Mais dans ce cas, ce qui m'interroge, c'est pourquoi déconstruire ce qui est déjà en place et qui fonctionne ? Et qui développe déjà l'empathie et favorise le climat scolaire. Donc, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je trouve qu'il y a quand même, en France, que ce soit dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'enseignement, beaucoup d'énergie perdue en déconstruction-reconstruction. Et je m'inquiète de ça, parce qu'aujourd'hui, les acteurs de ces systèmes, c'est-à-dire les enseignants et les soignants, ben on ne prend pas soin d'eux. Et quel est le meilleur moyen d'avoir de l'empathie à l'école ? Ben c'est déjà premièrement que les enseignants se sentent bien, ne soient pas en stress, parce que s'ils sont en stress, on sait très bien que quand on est en stress, quand on est épuisé, nos fonctions cognitives et notamment l'empathie cognitive sont altérées. Hein, le cortisol altère l'empathie cognitive, c'est des zones cérébrales, hein, et on voit à l'imagerie que quand on a du stress chronique, ces zones cérébrales diminuent sur l'imagerie médicale. Donc quand on est face à des professionnels du soin ou des professionnels de l'enseignement, et là je parle aussi des pédiatres, hein, parce que j'accompagne aussi les pédiatres, quand on est face à des professionnels qui sont en stress chronique, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes activer leur empathie cognitive et leur auto-empathie, et ils n'arrivent plus à prendre soin d'eux. Et comment on peut avoir un bon climat de soins, un bon climat scolaire, si les acteurs qui accueillent les enfants ou les patients sont pas bien? Donc, pour moi, il y a de l'inquiétude de ce côté-là. Voilà, c'est, je ne sais pas si, si on n'est pas dans des modes de fonctionnement pansement, plutôt que dans des modes de fonctionnement refondation des bases. Et pour moi, les bases, le cadre doit être sécurisant pour que tout ça, ça se passe de bonne façon. Donc voilà, je suis inquiète pour ça. Je suis inquiète pour mes collègues soignants ou mes anciens collègues soignants puisque je ne fais plus partie du système de santé. Et effectivement, comme tu l'as dit au début, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour un système de santé plus humain » où je fais un état des lieux et où j'apporte des ressources pour améliorer les choses. Et puis, j'arrête pas de penser à la même chose sur le plan de l'enseignement, de l'éducation. Mmh. Parce que je me dis, mais je pourrais écrire la même chose, plaidoyer pour un système d'éducation plus humain, parce que j'ai vu les choses se dégrader d'année en année, et je vois les enseignants qui sont épuisés. Et on sort quand même d'une période avec le Covid, où il y a eu un épuisement de toutes ces personnes-là qui sont au contact des enfants et qui sont... on est allé de protocole en protocole, de changement en changement, de rajouter des choses, de surcharge, de les enfants vont pas bien, les enseignants vont pas bien. Aujourd'hui, tout le monde est en choc post-traumatique et il y a urgence de prendre soin de tout ça. Et effectivement, la pratique de l'attention est une bonne façon de prendre soin parce qu'elle permet de se poser, d'avoir un temps d'arrêt et de prendre conscience, d'accueillir ce qu'on est en train de vivre, d'acter « ok, là, je ressens ça », mais aussi de reconnecter les fonctions cognitives. Et les fonctions cognitives, elles nous permettent de trouver des solutions, de comprendre, tiens, là je ressens ça parce que j'ai besoin de ça, et qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de mon besoin ? Ok, voilà, et donc ça, c'est nécessaire au passage à l'action, aligné avec les valeurs, aligné vers le soin efficace du besoin. On ne peut pas toujours être dans l'urgence, dans le speed, à un moment donné, et ces petites pauses, alors je vous rassure tout de suite, elles peuvent être très courtes, hein, parce qu'on est tous débordés, on a tous plein de choses, des emplois du temps lourds, ou plein d'impératifs, d'imprévus, mais c'est pas une question de quantité, c'est une question de régularité, c'est tous les jours. Si je suis débordée, je peux déjà m'offrir 30 secondes. Est-ce que c'est impossible de s'offrir à soi 30 secondes tous les jours, et puis ensuite une minute, et puis ensuite 5 minutes? Non, c'est possible. Est-ce qu'on ne peut pas offrir des temps de classe où l'enseignant va pouvoir avoir un temps de pause pour lui-même et un temps de pause pour sa classe? Bah si, c'est possible. C'est rien comme volume de temps par rapport au reste, et ça va apporter... un recentrage, et ben l'enseignant va être mieux, les élèves vont être mieux. Mais bien évidemment, ça passe aussi par des moyens de formation, des moyens techniques, en fait, hein, du
je
temps.
Je comprends, et je partage, moi personnellement, je partage tellement tes inquiétudes, que ce soit effectivement dans le domaine de la santé, quand tu parlais des soignants, mais... effectivement les mêmes aussi d'un point de vue éducation. Et c'est vrai que nous, on a aussi pas mal de personnes dans notre entourage qui sont, enfin surtout des femmes qui sont enseignantes. Et c'est vrai que voilà, quand elles rapportent un petit peu tout ce qui se passe, quand on voit la fatigue aussi, l'épuisement des enfants, des élèves, la place des écrans aussi qui prend quand même de plus en plus de place... je me dis que ces pratiques-là de l'attention, pour moi, elles sont juste, je vais dire indispensables, mais parce que vraiment, je le pense comme ça. Et je le vois aussi avec mon aînée qui est entrée au collège, où maintenant, elle, dans son collège, il n'y a plus de livres, et beaucoup, beaucoup de choses se passent sur les tablettes. Donc, ils ont donné des tablettes aux enfants. Donc, le temps d'écran augmente encore plus, puisque même dans le milieu scolaire, on leur donne des écrans. Je pense qu'effectivement, pour améliorer, faciliter à la fois le bien-être, de la personne, c'est-à-dire de chaque élève, etc., mais aussi la qualité des apprentissages, pour moi, ce sont des notions, tout ce qui, pratique de l'attention, etc., qui sont vraiment, encore une fois, indispensables, selon moi en tout cas. Et du coup, c'est vrai que si on parle aussi des adolescents, enfin pour rester sur le côté collégien, puisque ça reste une population dont je trouve on parle peu, même si à chaque fois quand j'échange avec d'autres professionnels ou d'autres parents, on se dit « bah oui, les adolescents, c'est important d'en parler, etc., leur bien-être, enfin tout », mais au final, on trouve quand même, je trouve, peu d'informations sur cette période-là de la vie. Est-ce qu'on peut aussi proposer justement cette pratique de l'attention aux adolescents? Est-ce que ça se fait de la même façon qu'avec un enfant peut-être plus petit, qui serait, on va dire, dans le primaire? Est-ce que ça peut aussi ça pourrait, s'il y avait les moyens techniques, se mettre en place au collège? Comment ça pourrait se passer?
Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis qui sont vraiment importantes. Alors, effectivement, ces écrans à l'école, moi, je vais le dire franchement, hein, je suis contre. Je trouve que c'est une grave erreur. Et d'ailleurs, il y a des pays qui sont en train de revenir en arrière. Hein. On voit une baisse du QI, mais moi, en tant que professionnelle de santé, je vois aussi une épidémie de problèmes oculaires. C'est-à-dire qu'on a une augmentation du nombre de jeunes qui ont des troubles de la vue et qui ont nécessité à porter des lunettes. Et il y a une vraie épidémie de myopie, notamment. Et ça peut être dû aux écrans. Donc, effectivement, les écrans entraînent à diminuer le. En fait, ce sont des destructeurs du niveau attentionnel. C'est à mon sens dommage.
On en parlait justement en début de semaine avec Michel Desmurger, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, qui est chercheur à l'INSERM, et qui expliquait justement que dans les pays nordiques notamment, ils avaient eu une grosse vague où ils avaient numérisé l'école, et que là ils étaient en train de faire machine arrière suite aux résultats déplorables qui en résultaient. Et ils trouvaient ça incroyable que, alors qu'on avait ce recul-là de la Suède notamment, eh bien, on ne prenne pas en considération ces résultats-là pour se dire « Ok, l'expérience, elle n'a pas fonctionné là-bas, on ne va pas la tenter, restons avec des livres, c'est ça qui convient plus aux enfants. »
Oui, je trouve ça affolant.
Et puis au-delà du livre, c'est aussi toute l'écriture. L'autre jour, je regardais un petit bout là, d'un reportage qui expliquait que entre pianoter sur un ordinateur ou sur une tablette avec nos doigts ou écrire vraiment avec un crayon, il n'y a pas du tout les mêmes parties du cerveau qui s'activent. Et en termes, pareil, de mémorisation, d'apprentissage, etc., les résultats sont beaucoup moins bons quand on tape, pianote sur un ordinateur que quand la main et le crayon suivent le mouvement sur le cahier au moment où on écrit, etc. Enfin, ils expliquaient, moi je ne suis pas capable de retranscrire le reportage, mais vraiment ils expliquaient les capacités de mémorisation qui étaient beaucoup plus importantes quand on écrit avec un crayon que quand on pianote sur un ordinateur.
Mais d'ailleurs, tu sais que moi j'ai vu un reportage sur les enfants des personnes qui travaillent dans le milieu de la technologie comme ça, hein, donc notamment les inventeurs de tous ces outils technologiques. Et ces enfants-là,
donc,
ils sont
pas
dans
leurs
des
enfants.
Non, ces enfants-là ne sont pas exposés aux écrans, aux ordinateurs, aux tablettes, et au contraire, ils ont des cours de calligraphie, ils ont des cours d'écriture, ils ont des cours de dessin de façon très très importante proportionnellement par rapport à nous, nos temps à l'école. Et oui, il y a quand même quelque chose de vraiment très très surprenant dans tout ça. Et même sur le plan écologique. Et dans ce que tu... Je ne veux pas oublier un point dans ce que tu as dit, les écrans sont importants, mais il y a aussi l'alimentation. L'alimentation joue aussi énormément sur le niveau d'attention et la qualité d'attention, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui mangent des choses qui sont pleines de sucre et de produits excitants, de produits, que ce soit des conservateurs, des additifs, etc., hein, en dehors même de la perturbation endocrinienne, il y a des produits qui agissent sur le niveau d'excitation ou d'attention. Et donc, on a des enfants qui, en plus, ne sont pas nourris correctement en réalité, et même notamment à la cantine. Mmh. Et le sucre, c'est quand même un excitant. Les enfants ont un système de fonctionnement biologique qui fait que quand ils absorbent du sucre, ils ont besoin de le dépenser tout de suite. Donc un enfant qui vient de manger à la cantine et qui a mangé des choses très sucrées, bah, quand il arrive en cours, il a juste envie de gigoter, de bouger, de courir, bah, de dépenser son sucre. Et il ne peut pas du tout être attentif de la même façon. Et d'ailleurs, peut-être même, il va gigoter sur sa chaise parce que ça va l'aider à se concentrer, de revenir au corps, de bouger son corps, de sentir son corps bouger. Ça va être une forme de pratique d'attention pour lui, pour se poser. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est important. Et je ne sais plus quelle était ta question, Nadège. C'était par rapport aux ados.
Oui, c'est ça.
Oui, pardon, c'était par rapport à la mise en place de la pratique de l'attention chez les adolescents, à savoir est-ce que on s'y prend, entre guillemets, de la même façon qu'avec un enfant de 6 ans, ou est-ce qu'il y a des petites choses à savoir pour peut-être le mettre en place, je dirais, ou plus subtilement, ou autre, parce que, par exemple, moi, je suis aussi instructrice en massage bébé, et je sais que quand on parle de masser un adolescent, etc., ben, par exemple, on va dire qu'on va peut-être pas le faire directement sur la peau parce qu'il y a de la pudeur, parce qu'il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue changement physique, corporel sur les adolescents. Et du coup, des fois, ils préfèrent mais qu'on les masse, mais par exemple, par-dessus les vêtements, ou qu'on leur mette une musique à eux qu'ils aiment bien, même si ça va être une musique peut-être un peu plus punchy que celle que nous, on aurait mis pour créer l'ambiance un peu de détente, etc., juste pour créer au final un contexte, un environnement dans lequel ils vont se sentir bien et où nous, on va les accueillir, ils vont se sentir en confiance, etc., et où nous, en tant que parents, après, ben, on va pouvoir poser nos mains sur eux, mais peut-être de façon différente que sur un bébé où là, on va aller masser directement la peau, les petits bourrelets, etc. Donc voilà, est-ce que, je sais pas, voilà, il y a des petites choses à connaître pour pouvoir essayer de transmettre cette pratique de l'attention à des adolescents, surtout peut-être aussi, je me dis, quand si on n'a pas commencé, tu sais, ben, comme toi avec ton fils, tu disais qu'il avait 4 ans, là, si on a envie de commencer, parce qu'on est en train de t'écouter aujourd'hui, et notre enfant, il a 12 ans, peut-être 14 ans, et on se dit, ah ouais, ce serait quand même bien que j'essaye de lui transmettre cette pratique de l'attention, par quoi est-ce qu'on peut commencer, du coup, si on a un ado?
Premièrement, on peut commencer par montrer l'exemple. Parce que, alors, moi, je l'ai vécu personnellement et je pense sincèrement que même si on est avec un ado qui est hermétique à la pratique et qu'on montre l'exemple, qu'on incarne, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer à la maison, on peut pratiquer dans notre quotidien, en parler, et bien déjà ça, c'est important. Parce que un ado va... je pense que c'est la période la plus compliquée pour démarrer la pratique avec son enfant. Un ado, il va évidemment peut-être plus facilement rejeter la pratique proposée par l'adulte. Après, on peut aussi proposer des choses de façon très informelle, peut-être simplement dans des moments du quotidien, interroger. Moi, c'est ce que je fais maintenant, hein. C'est-à-dire, j'interroge, tiens, je suis avec mon fils, et à ce moment-là, je lui demande, tiens, là, cet aliment-là, tu perçois quelle sensation, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ressens, voilà, et donc je vais l'amener à partager ses sensations corporelles, son ressenti émotionnel et ses pensées, mais de façon informelle. Dans ce moment-là, je vais lui demander, tiens, même en différé, tiens, quand il s'est passé telle chose, qu'est-ce que t'as ressenti? Ah, ok, t'as ressenti ça. Et il y avait des sensations corporelles en lien avec cet événement-là. Est-ce que par exemple, t'as eu une gêne dans le ventre ou dans la respiration ou autre chose? Et qu'est-ce que tu as pensé de ça? Voilà. Et donc, ça va se passer peut-être différemment. Et puis, après, il y a des ados qui sont très intéressés spontanément. Moi, je suis intervenue dans des écoles pour partager, présenter, sensibiliser les ados. Et je me suis rendu compte que quand on démarre avec le stress, quand on leur parle de stress, ils se sentent très concernés et ils ont envie de ressources. Et donc, en partant de là et en leur proposant peut-être des ateliers à l'école, des ateliers en dehors de l'école, hein, en groupe ou peut-être des accompagnements individuels, bah, y a des ados qui sont très, très intéressés, mais pas en famille. Mmh. Alors, il y a des ados qui peuvent hein, démarrer en famille, pourquoi pas, hein, ça existe aussi, j'en ai eu en accompagnement individuel avec les parents. C'est, en fait, c'est très, très varié. Et il va falloir s'adapter à son propre ado. C'est beaucoup moins simple et facile qu'avec un tout petit qui va suivre son parent spontanément. Mais c'est faisable. Et au pire du pire, bah déjà, pratiquer soi-même pour montrer l'exemple.
Je ne sais pas si tu connais ce livre-là, « Comment ne pas finir comme tes parents ». C'est la méditation pour les 15-25 ans. Celui, la quatrième de couverture, c'est ce livre est un guide de survie pour ne pas finir stressé, inquiet, borné, frustré comme pas mal d'adultes auxquels personne n'a envie de ressembler. Et du coup, ils prennent le parti de justement se détacher un peu de ces adultes trop stressés et en leur donnant plein de bonnes idées. Donc, il y a des méditations guidées et je trouve qu'il est assez humoristique et il rentre dans l'univers des ados. Voilà, je trouvais que l'approche était rigolote, quoi, parce que ça
mais
un
super,
peu...
voilà. Et effectivement, c'est plus facile quand ça vient de l'extérieur, en fait, du cercle familial.
Carrément. Mais surtout à un âge où ils ont besoin d'être avec leur père, P-A-I-R-S.
Mais moi, j'ai un exemple personnel à partager. Moi, j'ai une belle-fille que j'ai rencontrée pour la première fois quand elle avait 11 ans. Et qui ne s'intéressait pas forcément à tout ça pendant son adolescence, quand on était à la maison ou que je pratiquais avec Raphaël quand il était petit. Et puis aujourd'hui, c'est une adulte accomplie, voilà, elle a 28 ans. Et maintenant, elle s'intéresse aux pratiques complémentaires, aux soins d'elle-même, etc. Et alors, je ne dis pas que je suis responsable de ça, hein, mais j'aime bien me dire que quand même, peut-être... d'avoir eu dans son environnement, d'ailleurs il faudrait peut-être que j'en parle et que je pose la question, tu vois, pour explorer est-ce que ça a apporté quelque chose tout ça ou pas, ou est-ce que ça vient peut-être de quelqu'un d'autre, voilà, c'est intéressant de poser la question. Mais j'aime à penser que quand on grandit dans un environnement où il y a un large choix d'informations, bah ces informations, elles sont là et on les connaît. Quand on ne connaît pas ces choses-là et ces pratiques-là, bah on n'y vient pas forcément. Moi, personnellement, dans ma famille, effectivement, il y a eu de l'intérêt pour des pratiques complémentaires. Bah, ça a éveillé ma curiosité. Quand je suis devenue futur pharmacien, j'avais quand même en tête que dans ma famille, pour les problèmes de santé, bah, on allait voir aussi en dehors du cadre santé classique. Donc, je pense que c'est intéressant d'observer ça.
Et justement, s'il y a des parents qui cherchent un peu des idées de petites activités qu'ils pourraient mettre en place, donc je rappelle qu'il y a ton livre qui s'appelle Happy Méditation, dans lequel on trouve plein d'idées super ludiques pour pratiquer avec ses enfants. Oui.
Il s'appelle plus Happy Méditation, il est devenu 4 saisons.
Ah, moi, j'ai
méditation
le comme ça.
Avec les enfants.
J'ai le gros. Ok. Oui.
Mais alors, il faut savoir qu'on le trouve encore un petit peu en achat en ligne, mais il est plus disponible en librairie puisque Marabout a arrêté l'impression de ce livre. Mais je travaille sur peut-être une reformulation de toutes ces pratiques, de tous ces outils. Voilà, je réfléchis à quelque chose là.
Voilà. Ah oui, ok. Peut-être, parce que moi, je m'en suis servie à la fois avec mes enfants, mais aussi avec mes élèves, parce que du coup, il y a des choses qu'on peut faire en grand groupe aussi, des choses qu'on peut faire à deux. Ça s'y prête bien. Ah oui, du coup, on veut la nouvelle version alors.
Ok, j'y travaille.
Et toi, quelle serait, si tu devais choisir une des activités justement que tu as partagées dans ce livre-là, ce serait laquelle?
Alors, pour pratiquer avec les petits, avec les grands...
Je sais pas, vraiment ta préférée, quel que soit l'âge, on part de ton activité préférée.
Alors... Mon activité préférée et d'ailleurs qui est celle aussi qui, je pense, remporte l'unanimité dans les groupes d'enfants ou en individuel avec les enfants. Même, je vais vous raconter une expérience, vous allez voir, c'est assez bluffant. Alors, la pratique, c'est celle des cinq sens. Et la pratique qui, je trouve, fonctionne le plus et qui est la plus réclamée, c'est la dégustation d'un aliment mystère. C'est-à-dire qu'on est avec son enfant, on est en groupe, on a les yeux bandés et on va découvrir un aliment par les quatre sens. Et puis ensuite, on va refaire l'expérience avec les cinq sens. Et on va avoir un temps d'échange formidable. Et c'est un jeu qui peut être inversé, c'est-à-dire que ça peut être l'enfant qui propose un aliment mystère à l'adulte et qui devient le guide de la pratique de l'attention. Et donc là, c'est un super outil de développement de la confiance en soi. Et cette expérience, je trouve qu'elle est très ludique, très facile à mettre en place dans le quotidien. Et je dirais même avec les ados, de les amener dans un temps où on n'est pas en train de déguster avec les yeux bandés, mais juste dans un temps de repas, juste d'amener à partager son ressenti sur un repas, sur un truc qu'on déguste, tiens, une nouvelle recette, un nouvel aliment, un petit aliment sympa, voilà. Tiens, qu'est-ce que tu remarques comme goût Qu'est-ce que tu remarques comme texture? Qu'est-ce que tu remarques comme odeur? Tiens, tu remarques que ça fait du bruit quand on croque. Voilà, on peut amener à partager, l'ado à partager sur quelque chose de la dégustation plus facilement, de façon informelle, sans que ce soit une pratique d'attention.
Et c'est drôle parce que cet exercice-là de déguster un aliment mystère avec tous ses sens, c'est quelque chose que j'adorais faire dans mes ateliers ou dans mes stages de yoga avec les enfants. Et je confirme que c'était quelque chose qui leur amenait beaucoup de joie, beaucoup d'excitation à chaque fois et pour lequel ils prenaient beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Alors, ouais. Ça m'a rappelé ça, tu vois, je me souvenais pas que je le faisais, mais de t'écouter parler, je me suis dit, ouais, en fait, je le faisais.
Oui, et ça travaille plein de choses. Par exemple, en groupe, ça travaille le contrôle inhibiteur, c'est-à-dire, j'ai envie de dire que j'ai trouvé quel était l'aliment mystère, mais comme chacun doit faire son expérience, je dois me retenir de dire, voilà, et donc là, je travaille mon contrôle inhibiteur. J'ai une impulsion, mais je suis pas obligée de la suivre. Et c'est moi le maître à bord, c'est moi qui décide. C'est vraiment aussi un outil de développement de mince, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. De développement de la confiance en soi, parce que oui, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. Quand je faisais des ateliers, pour le développement de la confiance en soi, je proposais des ateliers où c'était les enfants qui allaient choisir les activités et être les créateurs de la structure de l'atelier. En fonction de ce qu'on avait déjà fait sur l'année, je leur proposais, c'est vous qui choisissez. Et en plus, c'était dans la co-création, donc ils devaient en collectif choisir les activités ensemble. Et quand je faisais ce type d'atelier, systématiquement, il y avait cette pratique. Systématiquement. La dégustation à l'aveugle. Voilà, c'était... Et donc, j'ai eu un petit garçon qui est venu en atelier avec sa maman, un petit garçon de 4 ans. On a fait la dégustation à l'aveugle avec un petit flocon de maïs soufflé entouré de chocolat. Et il n'a pas aimé du tout le goût. Il a fallu que j'aille chercher un petit mouchoir, qu'il recrache sur le petit mouchoir. Donc, on a continué l'atelier, voilà. Et à la fin, je lui demande quelle pratique tu as préférée et que tu voudrais refaire là pour la fin de notre atelier. Et il me dit la dégustation à l'aveugle. Et je lui demande, est-ce que tu veux que j'aille chercher un aliment différent, un aliment surprise ? Et là, le petit loulou me répond, non, j'aimerais réessayer avec la petite céréale. Mais là, j'étais bluffée. Donc, on avait vraiment cette qualité de curiosité et cette conscience de « je vais traverser l'expérience, peut-être qu'elle sera désagréable, mais je vais la traverser avec curiosité, avec intérêt, qu'elle soit agréable ou désagréable. » Et là, j'étais bluffée, quoi. Là, je me rendais compte que j'avais encore un préjugé, j'anticipais encore avec mon biais cognitif de négativité et que ce petit loulou, non. Voilà, il était prêt à retenter cette expérience-là, même si elle était désagréable. Les enfants sont nos maîtres. Voilà. Je reviens vraiment à cette conclusion. Les enfants sont vraiment nos maîtres.
Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent ? Alors, soit sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé aujourd'hui, dont on n'a pas parlé, ou est-ce que tu as envie de rebondir et de peut-être plus préciser une notion que nous avons déjà évoquée.
La seule chose qui me vient là, c'est que vraiment, pour moi, cette pratique, ça a été un chemin d'amour inconditionnel. Parce que c'est vraiment développer son attention de qualité, son attention curieuse, c'est presque une attention scientifique. J'explore sans interpréter, voilà, j'observe avec curiosité, je sens avec curiosité, je remarque, et avec vraiment cette bienveillance, et pour moi c'est vraiment un chemin d'amour inconditionnel. J'ai pu développer des qualités, des compétences que je n'imaginais même pas. Et je dirais même, pour ceux qui s'intéressent aux compétences psychosociales, on développe toutes les compétences psychosociales avec ce duo moment d'attention, moment de partage. Mais c'est vraiment un chemin d'amour pour soi, d'amour de soi et d'amour de l'autre sans attente.
Je trouve ça incroyable, tout ce qui se cache derrière juste ce petit mot qui a l'air de rien, attention. On voit par rapport à la qualité de tout ce que tu nous as proposé.
Mais je viens d'avoir une prise de conscience énorme là tout de suite quand on entend « attention ». Le « a » suppressif et le mot « tension ». Tu vois, quand on est dans l'attention, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, peut-être que tout ce qui est de l'ordre de la tension s'évapore. Et peut-être qu'effectivement quand on n'est pas dans la LA plus loin tension, bah quelque chose se dénoue voilà. je terminerai sur cette prise de conscience là tout de suite dans ce que tu viens de dire. Merci.
Mais je pense que c'est le début d'un petit truc là. À mon avis, ça va t'amener plus loin, cette prise de conscience là. Un immense merci en tout cas, Valérie. C'était un bonheur de partager cet épisode avec toi. Merci.
Merci à vous deux.
Oui, merci.
C'était
beaucoup.
Un bonheur pour moi aussi.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura donné plein d'idées pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, vous reconnecter à vous-même, à votre enfant et à l'instant présent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à partager sur les réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode.